feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
That I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
T'as où les vaches?
Mais sur Radio des Alpes, Didier.
Oh mais tip top.
Hello, bienvenue sur Radio des Alpes. Je suis Samantha.
Et moi Damien.
Je suis Caroline. C'était Wake Me Up de Avicii. Son vrai nom est Tim Berling, originaire de Stockholm.
Cool, mais de quoi va-t-on parler durant cette émission?
On va parler des hobbies de nos chers journalistes. Qui va avoir l'honneur de passer en premier?
C'est Jacqueline qui va nous parler des...
mangas, ou plutôt l'art du manga. C'est tellement bien les mangas.
Oui, mais avant, écoutons Clean Bandit de Ratcher B.
No! Je présente Jacqueline en direct du Japon. Mon hobby à moi, c'est la lecture des bandes dessinées japonaises, plus communément appelée le manga. Le manga, donc, a commencé au Japon entre 710 et 794, la période Nara. Ah bon ? Mais c'est super tôt ! Mais non, c'est normal. Au début, c'était juste des avatars qui représentaient des personnages populaires au Japon. Si on parle un peu plus moderne, les mangas sont vraiment pour tous les goûts. L'amour, le surnaturel, le sport, la comédie, l'épouvante. Mais là, je parle du manga papier. Il existe bien sûr sous d'autres supports comme l'animé, le film, les goodies, les figurines, les cosplays, et j'en passe. Les mangas se différencient parmi les genres et les publics visés. Par exemple, le terme seinen, qui veut dire jeune homme, attire généralement les adultes. Mais malgré tout, le manga le plus populaire et sans doute le meilleur est le manga shonen, qui vise les adolescents. Si vous voulez commencer à chercher ou même à faire un manga shonen, voici quelques conseils pour vous aider. Pour commencer, il vous suffit de prendre un personnage naïf et drôle, et prendre un autre personnage pour jouer le méchant ou rival à qui il sera donné un pouvoir pour décimer ses semblables. Il faudra que le héros principal ait un but dans ses aventures, ou un rêve qui le motive. Il ne pourra cependant y arriver qu'avec l'aide de ses quelques amis et grâce au conseil de son maître. Sans oublier que notre rival, aussi dit très antagoniste, évoluera en même temps que notre héros principal. Voilà, j'espère que ça vous a peut-être appris ce que vous ne saviez pas encore sur les mangas, ou que ça vous a fait découvrir une toute nouvelle chose. Merci à vous!
C'était génial, ça m'a donné envie d'en lire, pas vous ?
Si, mais je préfère le dessin normal.
C'est parfait qu'Inès en parle justement. Et après ?
Nous allons écouter « Dessine-moi un mouton » de Mylène Farmer.
Bonjour les auditeurs, que va-t-on parler aujourd'hui ? Et si on parlait de l'art, commençons par le dessin. On utilise du papier et des crayons, je vous apprends rien. Mais quel type de crayon ? Tout d'abord, on peut utiliser des crayons de couleur ou des crayons à papier, mais pas n'importe lequel. Vous remarquerez qu'au bout du crayon, il y a une inscription, par exemple HB, 5B, 2H, etc. Ça représente s'il est gras ou sec. Plus c'est vers le B, plus c'est gras. Le contraire, plus on va dans le H, plus c'est sec. Donc HB, c'est entre deux. Le plan du dessin, il est conseillé de faire avec le HB. Ensuite, pour les ombrages du 2B, parce que c'est plus simple à faire les dégradés. Pour le dessin, je n'ai plus grand chose à vous dire qu'à part sans volonté et patience, on ne peut pas progresser. Passons maintenant à la peinture. On n'utilise pas n'importe quelle peinture. L'abstrait, c'est avec de l'acrylique et du figuratif avec de la peinture à huile. Forcément, le rendu n'est pas le même. L'acrylique laisse un rendu plus brillant, ça donne un effet plastique. La peinture à l'huile est totalement l'inverse, mais il y a un inconvénient. Il prend des jours à sécher. Ça peut arriver aussi qu'après une semaine, c'est pas encore sec. L'abstrait, on le regarde, on se dit que c'est fait n'importe comment. Mais c'est faux. Faut le structurer, lui donner une forme. Avant le structurer, faut faire du volume. Plusieurs couches de peinture, une par une. Eh bien, ça peut rendre fou une personne. Pour finir, je vais questionner des passants sur l'art. C'est parti.
Quel type de crayon utilise-t-on pour les dessins?
Il y en a deux. Un pour le plan et l'autre pour l'ombrage.
Alors pour le plan, c'est l'HB. Et pour l'ombrage, c'est le 2B.
J'ai aucune idée. Là, je connais rien, moi.
Je pense le crayon 2B, ça doit être pour l'ombrage. Puis le HB, justement pour le plan.
Que représentent les inscriptions au bout des crayons? Par exemple, HB, 2B, 4H.
Ça représente la matière de la mine. Plus on va vers le B, plus la mine est grasse. Et plus on va vers le H, plus la mine est sec.
Alors je pense que ça doit être pour la qualité de matériel, plus gras ou plus sec,
La dureté de la mine, enfin, sa puissance.
Quelle peinture utilise-t-on pour la peinture abstraite?
Alors pour la peinture abstraite, on utilise la peinture acrylique.
L'acrylique?
La gouache, enfin je connais que ça de toute manière.
Et pour le figuratif?
Pour le figuratif, on utilise la peinture à l'huile.
Ah, je pense que c'est la peinture à l'huile.
Le pastel.
J'espère que cette chronique vous aura plu, que vous avez appris une ou deux choses. Sur ce, je vous laisse. Ciao.
Voilà, maintenant je sais enfin que veulent dire les lettres au bout des crayons.
Ça va aussi m'aider à donner des effets à mes dessins.
Personnellement, je préfère largement la musique au dessin.
Bah, tu vas être servi, parce que Théodore va nous parler du piano.
Super, j'adore le piano. Mais avant, nous allons écouter Chandelière de Sia en version piano. Cette musique a été écrite par Sia et par Jesse Chatkin.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swim. Down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding off tonight, off tonight. Sun is up, I'm a mess. Gotta get up now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Étant moi-même féru de piano, je vais aujourd'hui vous parler de cet instrument absolument passionnant. Bien que ce sujet soit d'une vastitude considérable, il est très intéressant et je vais donc vous présenter quelques bribes de son histoire et de son fonctionnement. Le piano est le descendant du clavicorde, instrument dont les cordes étaient frappées par une tangente, qui est une petite pièce métallique, et sur lequel on ne pouvait faire que peu de nuances. On a donc rapidement voulu le supplanter. C'est pourquoi Bartolomeo Cristofori a créé un mécanisme de frappe des cordes qui était beaucoup plus puissant que celui de clavicorde. Il l'a ensuite placé dans une caisse de clavecin, donc ça avait l'aspect du grand clavecin, mais on pouvait commencer à nuancer le son. C'est cette ébauche qui a donné naissance au pianoforte, créé sur un modèle rectangulaire par Christian Ernst Federici en 1758. On joue aujourd'hui sur des pianos modernes, les œuvres de Mozart ou les œuvres de jeunesse de Beethoven, mais elles ont été écrites pour pianoforte. Le pianoforte a été travaillé et amélioré par de nombreux facteurs durant le 18e et le début du 19e siècle pour finalement arriver au piano que nous connaissons aujourd'hui, le piano moderne. Je vais maintenant vous parler de son fonctionnement. Le son est produit par des marteaux qui frappent les cordes et remonte directement. L'extrémité des marteaux est faite en feutre, ce qui permet au son d'être plus doux et plus sonore que sur le clavicorde. C'est nous qui choisissons la force avec laquelle les marteaux vont toucher les cordes, ce qui nous permet de nuancer le son et de vivre la musique comme un rêve plus intime. Plus la case de résonance est grande, plus le son est ample et perceptible au niveau des basses. C'est pour ça que les pianos à queue ont un bien meilleur son que les pianos droits et se vendent, par conséquent, à des prix beaucoup plus élevés. Voilà. C'est ainsi que s'achève ma présentation, qui, je l'espère, aura été fructueuse pour vous. Sur ces mots, je vous souhaite, à vous tous qui m'écoutez, une heureuse continuation.
C'était génial.
Je trouve aussi.
Il fait beau dehors. Vous n'avez pas envie de skier ?
Oui.
Banoué va nous parler du ski freeride, alors on sera un peu sur les pistes.
Mais avant, écoutons Les Bronzés font du ski, en rapport avec la chronique de Noé.
Place au micro-trottoir.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous présenter mon émission qui traite le sujet du ski. Mais parler du ski, ça peut durer des jours, c'est pourquoi moi, j'ai choisi le thème du ski freeride et ses conséquences sur la faune et la forêt. Je vous laisse découvrir mon micro-trottoir et on se revoit à la fin. Allez, à toutes! Alors, selon vous, quelles sont les conséquences du ski freeride sur la faune et la forêt?
Alors je pense que les conséquences, elles peuvent être négatives pour la faune. Quand par exemple les skieurs croisent des chamois peuvent avoir peur des skieurs et s'enfuir, et puis ça leur brûle de l'énergie et ça leur met certainement leur vie en danger.
Oui, alors je pense qu'il faudrait prendre des mesures, notamment par exemple je sais qu'il y a déjà des zones qui sont interdites, mais peut-être renforcer le règlement. Les zones à risque, peut-être, qui dérange plus la faune et la forêt, peut-être les interdire plus, avec peut-être plus de surveillance et des amendes qui dissuaderaient les skieurs à revenir.
Alors, les conséquences du ski hors piste sur la faune et la forêt. Alors, je pense que les skieurs hors piste font peur aux arbres. Non, je plaisante. En fait, les conséquences sur la forêt, c'est que ça peut abîmer les jeunes arbres, donc le rajeunissement. Ça coupe les pointes des petits sapins, des petits mélèzes. Ça peut aussi abîmer les écorces, donc dans les régions fréquemment skiées, les petits arbres ont de la peine à pousser, donc la forêt a de la peine à se renouveler. Et souvent, c'est des forêts de protection pour les villages et les routes qu'il y a en dessous, surtout dans les régions, les régions alpines, dans les vallées alpines. Et puis au niveau des animaux, au niveau des gibiers, c'est clair que les animaux ont très peu à manger ou pas du tout à manger pendant l'hiver, donc ils puisent dans leurs réserves. Et le fait de les effrayer, ils doivent énormément consommer d'énergie, donc puiser énormément dans leurs réserves. Et un animal, par exemple un chevreuil ou un chamois qui est fréquemment dérangé par des skieurs, pourrait mourir d'épuisement parce qu'il a trop brûlé d'énergie sans trouver de ressources et de nourriture en suffisance. Alors évidemment, lorsqu'il y a beaucoup de neige, c'est là que c'est intéressant à skier en forêt, mais c'est là que c'est très difficile pour le gibier. Ensuite, ça dérange aussi des espèces menacées comme les tétralyres, grand tétras, le lièvre variable, les lagopèdes alpins. C'est plutôt des petits animaux, des oiseaux, des petits mammifères qui sont en voie de disparition. Et les skieurs les dérangent, donc ça aide pas non plus à leur réinsertion ou à ce qu'ils puissent se reproduire normalement.
Voilà donc, un freerider qui voit une magnifique pente en hors-piste bien enneigée aura certainement l'envie d'y aller pour se faire plaisir. Mais beaucoup ignorent que ces zones sont l'habitat de nombreux animaux. En s'aventurant en forêt, un freerider effraie les animaux en hibernation ou saccage les forêts protégées. C'est pour cela que les cantons suisses ont défini des zones tranquilles pour le gibier et des réserves de faune pour protéger les animaux contre des perturbations excessives venant de l'homme. Voilà, mon émission est à présent terminée. Je remercie Martin, Céline et Samuel pour m'avoir donné ces précisions. Et je vous dis à la prochaine.
C'était super sympa, mais je n'aime pas trop le freeride. Mais quelqu'un d'autre fait sur le ski, non ?
Oui, c'est Quentin. Et juste après, nous allons...
écouter Animals de Martin Garrix, de son vrai nom Martin Garristen, né le 14 mai 1996 à Amstelveen, est un disc jockey, producteur et compositeur néerlandais.
Yeah, man. Jamski film production, right? Chilabi, Kabamba, Viola, Anto, Paris, Ayahuasca, pour production. Yeah man, c'est saga, c'est saga.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du ski, qui est un sport de glisse. Il a été inventé par les peuples qui vivaient dans les montagnes des pays nordiques. En 1888, l'expédition Nansen traverse le Groenland à ski. Grâce à cette expédition, ce sport va devenir plus populaire. Je vais maintenant poser quelques questions à des skieurs et interviewer un professeur de ski.
Bonjour.
Salut.
Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce sport ?
Tu vois, dans le ski, ce qui est vraiment important, c'est d'être libre. Tu vois, quand tu as un certain niveau, tu es libre, tu peux aller partout. C'est ça qui est important, que j'aime bien.
Mais quel style de ski pratiquez-vous ?
En fait, c'est plutôt le ski alpin sur la piste. Mais j'aime aussi bien aller en dehors des pistes, un petit peu freeride, contre le freestyle.
Merci. Hein. Alors bonjour.
Ciao.
Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce sport ?
Alors ce que j'aime dans ce sport, c'est la vitesse. Et puis être à l'air toute la journée. Et puis quand il fait beau, mauvais, partout les temps.
Et quel style de ski pratiquez-vous?
Alors, je pratique du ski alpin et puis aussi du ski freeride. Mais ce que je pratique pas du tout, c'est le ski freestyle.
D'accord, merci.
Ciao.
Bonjour. En quoi consiste votre métier?
Je dois enseigner le ski.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien skier?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien skier? C'est la pratique tous les jours.
Est-ce que les enfants à qui vous apprenez à skier aiment le ski?
Oui, bien sûr. Ils aiment la... je pense que c'est surtout... ils aiment... ça dépend du moniteur de ski. La personnalité.
Quel style de ski préférez-vous?
Sur piste, je skie en ski de slalom.
Merci.
Voilà, je vous ai parlé du ski. Bonne journée et à la prochaine.
Alors, ça t'a plu, Samantha?
Oui, beaucoup. Quel journaliste passe après?
C'est Alizée qui va nous parler du modern jazz.
C'est quoi?
Je n'en sais pas plus que toi. Laissons notre chroniqueuse nous en apprendre.
Mais avant, Armstrong, Je ne suis pas noir, écrit par Claude Nougaro.
Lui là-haut, les anges zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes les dents. Moi, je bois plutôt du noir. Chante pour moi, Louis. Oh oui. Chante, chante, chante. Ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi, qui suis blanc de peau.
Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une danse un peu moins connue que le hip-hop ou la danse classique, le modern jazz. D'abord, petite intro. La danse jazz est un peu originaire des danses afro-américaines de la fin 1800. L'ancêtre du modern jazz s'appelle le jazz roots. C'est une forme de danse solo pratiquée des années 1920 à 1940. Puis, la danse jazz, autre ancêtre de ce style de danse, sera développée après 1940. Le modern jazz, lui, va naître dans les studios new-yorkais en 1950. Le modern jazz mêle rythme, style et musique. Elle fait autant appel à la technique la plus exigeante qu'au sentiment le plus sincère. Elle demande une souplesse et une douceur particulières. Et maintenant, je vais interroger deux personnes. Une personne totalement étrangère à cette discipline et une autre personne qui la pratique. Je vous laisse écouter la première.
À ton avis, sur quel style de musique le modern jazz est-il dansé ?
À mon avis, il est dansé un peu comme le jazz dans les années 1980, par là.
Et à ton avis, à quoi ça ressemble un peu le modern jazz comme style de danse ?
Ça doit ressembler un peu au hip-hop, mélangé avec un peu de jazz, musique des jeunes, quoi.
Voilà, ce monsieur a dit ce que beaucoup de gens pensent, que le jazz est dansé là-dessus. Et si on écoutait une personne qui pratique cette superbe danse ? Sur quel style de musique est-ce que tu danses ?
Alors, sur un peu tous les styles, ça dépend.
Et est-ce que tu as des exemples de chanteurs ?
Dernièrement, on a dansé sur du Amel Bent, sur du Rihanna et une fois sur du Elvis Presley.
Mmh. Puis alors la deuxième question, à quel style de danse est-ce que le modern jazz ça ressemble un peu ?
Ça ressemble un peu à tout, quoi. Tu mélanges tout dedans. Et c'est bien.
D'accord, alors merci beaucoup.
De rien.
Alors, faisons un petit résumé. Le modern jazz, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas forcément dansé sur du jazz, mais sur beaucoup de styles de musique, et on y mélange les pas de toutes les danses. Mais voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, et je remercie les deux personnes qui ont accepté volontiers de me répondre. À bientôt sur Radio des Alpes.
Eh bien maintenant, on sait tous de quoi cela retourne.
Oui, mais... c'était cool, mais c'est un truc de fille.
Bah après, on a une chronique mixte.
Ok, mais avant, nous allons écouter Un paradis quelque part de Linda Lemay. Née le 25 juillet 1966 à Portneuf, au Canada, est une auteure-compositeur-interprète québécoise connue pour ses chansons à histoire. Elle a vendu plus de 4 millions d'albums jusqu'à février 2015. Mmh.
Il existe un paradis quelque part, un monde à l'abri du monde, où il ne pleut jamais dans les regards, où il n'y a jamais de voix qui gronde. Un monde à part que je trouverai, peut-être à force d'en rêver. Une belle histoire que je raconterai à mes enfants à l'heure de les border. Il existe un paradis quelque part, un monde à l'abri de l'âge, un lieu béni où plus rien ne sépare les jeunes fous et les vieux sages. Un monde à part que je forgerai à force de l'imaginer. Une belle histoire que je friturerai pendant d'éternelles éternités. Il existe un paradis et je veux t'y voir, avec tes cheveux d'ébène et ton sourire d'ivoire. Je serai musicienne et je jouerai sur toi. Tu serais un poème en chantier sous mes doigts. Il existe un paradis quelque part, un monde à l'abri du temps, fatigue ne vient pas le soir séparer les vieux amants. Un monde à part que je trouverai, peut-être à force d'en rêver. Une belle histoire où je plongerai tête première et les deux yeux fermés. Il existe un paradis et tu m'y attends. Tu me trouveras jolie, tu me diras comment. On fait des moutons blancs avec des nuages gris, on fait des bons enfants avec nos restes en vie. Un Éden à l'abri des moqueries, des jugements. Y aura rien d'interdit, aura rien de gênant. Tu me diras je t'aime et je ferai comme toi. Tu seras un poème en chantier sous mes doigts.
Bonjour à tous les spectateurs et spectatrices. Aujourd'hui, on va parler de la photographie. La photographie, tellement de choses à dire sur elle, pas vrai? L'inventeur de la photographie s'appelle Nicéphore. Et aujourd'hui, on va parler des smartphones et les appareils photo. De nos jours, les smartphones font une grande partie de notre vie. Souvent, utiliser notre smartphone pour faire des photos est plus courant de se servir de notre appareil photo. Grâce à ça, le monde de la photographie s'oublie peu à peu suivant l'évolution de la vente des smartphones. Avec nos téléphones, on n'a jamais autant pris et partagé des photos. Les appareils photo sont oubliés et les ventes s'effondrent. Nikon, la fameuse marque d'appareils photo, a vu plonger son bénéfice 72% à 42%. Et tout cela car de plus en plus de smartphones sont vendus. Maintenant, la question c'est, le smartphone va-t-il tuer l'appareil photo? Pour ça, j'ai demandé l'avis de différentes personnes. Let me take another selfie.
Non, je ne pense pas, car l'appareil photo a généralement une meilleure qualité qu'un simple smartphone. Un smartphone, c'est entre 8 mégapixels et 13 de nos jours. Il y a aussi des appareils photo de 13 mégapixels, etc. Mais c'est plutôt 18, 20 mégapixels.
What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on. That's so ratchet.
Les lattes vont pas tuer les appareils photo, car les vraies personnes qui aiment travailler avec l'appareil photo vont toujours le faire. C'est vrai que il est pas très pratique et tout, mais il a une meilleure qualité que les Natel, même si maintenant les Natel se développent vite. Le Natel, maintenant tout le monde l'utilise, enfin beaucoup de gens, parce que c'est plus pratique vu qu'on le prend comme ça dans la main et tout. Et voilà, c'est mon opinion.
Non, parce que les personnes qui aiment les photos, bah, ils vont pas arrêter d'utiliser les appareils photos. Mais ça sera moins en moins utilisé, parce que c'est plus pratique qu'avec un téléphone, parce qu'on l'a toujours sur nous.
Bah, je dirais que le smartphone pourrait facilement tuer un jour l'appareil photo, voire plus vite que ce qu'on pense même. Il y aura toujours ces personnes qui aimeront les appareils photo, les grands fans, quoi, les collectionneurs et tout ça, qui achèteront ces appareils photo avec les gros objectifs et tout ça. Et puis, ben, je pense que oui, très prochainement, le smartphone pourrait tuer l'appareil photo.
Pour conclure, sûrement que les personnes passionnées par la photographie continueront à acheter des appareils. Mais les ventes vont continuer de baisser tant que de nouveaux smartphones sortiront avec un appareil photo de plus en plus performante. Et vous, que pensez-vous de cela? Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.
But first, let me take a selfie.
T'as préféré? Moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu.
Moi aussi, maintenant je vais pouvoir faire des photos de vous.
Maintenant, nous allons écouter Katia qui va nous parler de l'équitation.
Nous allons écouter Bâtard de Stromae. Stromae a 29 ans. Il est né le 12 mars à Bruxelles en Belgique.
Je suis, j'étais et resterai moi, ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et resterai moi, ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais. Et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais, et resterai.
T'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es veuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati? Mythomaniste ou vendu? Rien du tout ou tout tout de suite? Du tout au tout indécis, hein, tu changes d'avis imbécile, mais t'es où tout si, flamand ou allon, bras ballant ou bras long, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein.
Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes.
Monsieur ne prend pas parti, monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça, d'ailleurs tout ça bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal, les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde, monsieur c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme hein. Faut être doux, faut être calme hein. Faut être dans le coup, faut être branchouille, pour être bien vu partout hein.
Le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes.
Petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est ton...
Bonjour. Après la chanson Petit Poney, je suppose que vous avez compris que je vais vous parler de l'équitation. Enfin, je, c'est pas tout à fait vrai. Je suis au domaine du Rhône, le manège où je monte, pour interviewer ma prof d'équitation. Alors, en selle et c'est parti.
Salut Déborah, je vais te poser quelques questions sur ta passion. On dit que les chevaux dorment debout tout le temps, c'est vrai?
Non, c'est faux. Le cheval, il dort pas tout le temps debout, il se couche de temps en temps, en vache, les pieds repliés ou des fois couché complètement sur le flanc, mais jamais trop longtemps.
En dehors de l'image du sport connu du grand public, qu'est-ce que l'équitation?
Bah avant d'être un sport, c'est quand même un loisir. On partage avec le cheval autant pour aller se promener que pour prendre des cours, pour apprendre. Même juste travailler à pied, ça suffit.
Que peux-tu dire de la relation homme-cheval?
Question compliquée. La relation homme-cheval, on peut y trouver de la complicité, on peut y trouver un vrai lien, en tout cas un vrai partenariat. Ça, c'est très important. Moi, je dirais surtout beaucoup de complicité, en fait. On partage beaucoup, en fait. Le cheval nous montre beaucoup de choses, il apporte beaucoup à l'homme, on apprend beaucoup de choses sur nous. C'est très spécifique, c'est très particulier, mais c'est quelque chose de fabuleux quand on est passionné.
Quelles sont les différentes sortes d'équitation?
Tu parles en termes d'activité ou...
En général.
Parce qu'on trouve différentes... on peut faire de l'équitation western, on peut faire de l'équitation de rando, on appelle ça du trek, on peut faire de l'équitation sous l'obstacle, du dressage, il y a beaucoup de disciplines qu'on peut utiliser avec le cheval. Après, y a plein de disciplines. Après, il y a de sortes d'équitation, on a des méthodes académiques, des méthodes douces, des méthodes, on trouve plein de choses autour de ça. Je pourrais t'en citer plein, mais on en a pour un petit moment. Chacun aborde l'équitation comme il a envie, quoi. Autant dans le sport que dans la discipline cherchée.
On dit que le cheval, il doit beaucoup manger, mais tu peux me dire combien?
À l'état naturel, le cheval, il mange toute la journée. C'est-à-dire qu'il se déplace, il a un petit estomac, donc il digère vite, donc il mange tout le temps. Il passe sa journée à chercher de la nourriture, de l'herbe notamment, beaucoup. Après, vu qu'il a un petit estomac, quand ils sont détenus en écurie, c'est bien de fractionner les repas en petites quantités, mais souvent. Donc nous, on donne entre 4 et 5 repas par jour, fractionnés. Après, ça dépend de ce qu'il fait. Le cheval de sport mange plus parce qu'il a plus d'activité physique et il a un régime alimentaire un peu plus spécifique que celui qui fait du loisir ou qui vit au parc ou qui sort moins souvent que le cheval d'école. Ou... Tout dépend, c'est un peu comme les humains. Chacun sa personnalité, chacun son menu.
Comment juge-t-on si c'est un cheval, un poney ou un double poney?
Déjà, on le voit, il y a des petits, des moyens, des grands. Et puis après, c'est par centimètre. En fait, on les mesure. Les Shetland vont jusqu'à 1 mètre. Pour les petits poneys, donc. Et puis le double poney, il va jusqu'à 1,50 m. Au-dessus d'1,50 m, c'est un cheval grand.
Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que l'équitation a un peu moins de secrets pour vous maintenant. Je remercie encore une fois Déborah qui a accepté de répondre à mes questions. Au revoir et bonne journée.
Il s'appelait Stubor. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans.
C'était génial, Katia, mais c'est déjà fini.
Alors, nous vous disons au revoir.
Et bonne journée sur Radio des Alpes.
Et pour finir, Dangerous de David Guetta.
Spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh.
Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive.